Laura a mentionné les soirées Horizon Dieu. C'est un peu comme si on entrait dans une de ces soirées, dans le sens où l'évangile de Marc est l'évangile qu'on a étudié l'an dernier. Ça sera l'évangile de Jean l'année prochaine, mais du coup, on prend ce passage pour réfléchir à ce que signifie suivre Jésus, puisque c'est la décision que Laura a prise. Quand Harry rencontre Sally, c'est le titre d'une comédie musicale, comédie romantique, c'est mal parti, je vais refaire le film, comédie romantique, alors des années 80, c'est pas tout récent, mais moi je suis pas tout récent non plus, donc c'est l'histoire de Harry qui rencontre Sally, exactement. Et en fait, on trouve deux personnages ou en couleur, dans le sens où ils ont chacun leur personnalité. Sally, dans la voiture, alors qu'il doit faire un voyage vers New York, explique qu'elle y va pour devenir grand reporter. Il s'est rien passé dans sa vie jusque-là, et justement, elle va à New York pour que sa vie devienne trépidante. Ben Harry, lui, il est plutôt côté sombre, il pense toujours à la mort. Quand il a un livre, il lit la dernière page, la fin du livre, pour être sûr que s'il meurt en lisant le livre, il sait déjà ce qui va se passer à la fin. Assez sombre comme manière de réfléchir. Mais alors qu'on voit ici, dans notre passage, Jésus qui se rend à Jérusalem, alors qu'il est question de sa trajectoire, mais aussi de la trajectoire de ceux qui le suivent, quelle est sa manière de voir? Quelle est sa perspective? Comment est-ce qu'il explique ce chemin? Pour résumer ce passage, on pourrait dire que Jésus est le roi qui doit passer par la croix. Et si on veut le suivre, on doit nous aussi passer par la croix. Jésus est bien le roi qui doit passer par la croix. Et si on veut le suivre, on doit nous aussi passer par la croix. On va essayer de le relever dans le passage, mais si vous deviez réfléchir à une courbe de vie, quand on entend des paroles comme « passer par la croix », ça peut paraître assez choquant. On imagine une trajectoire de n'importe quelle personne, et ici j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre nous qui sont venus sur Paris pour faire des études ou pour un premier travail. On s'imagine qu'en venant ici, on va suivre cette courbe montante, on va faire des études, les réussir au mieux, obtenir un travail qui nous satisfait, une bonne trajectoire professionnelle. Et c'est un peu la manière de résumer toute une vie. On grandit, on apprend, on découvre et on enrichit notre expérience pour arriver, en fin de compte, à une satisfaction avec cette trajectoire de vie. En tout cas, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le voir. Mais ici, Jésus parle de cette route vers Jérusalem comme d'une route où il va connaître le rejet de tous les responsables du moment et la mort. La résurrection aussi, mais le rejet avant tout. Alors est-ce que c'est, avec cette courbe idéale, Sally, l'optimisme qui dit « en fin de compte tout ira bien » Non, il n'est pas optimiste à ce point-là. Il passe par la croix. Est-ce que c'est Harry qui ne pense qu'à la mort et qui est obnubilé par la mort, pessimiste? Non, Jésus affirme bien qu'il y a une résurrection au-delà de la mort. C'est un paradoxe devant lequel il nous place. Pour monter, selon Jésus, il va falloir descendre. Pour gagner, il va falloir perdre. Comment comprendre ce qui se passe ici? Comment comprendre cette dynamique? Eh bien, on va se poser deux questions ce soir. Comment voit-on Jésus et comment suit-on Jésus? Comment voit-on Jésus? Comment suit-on Jésus? On peut essayer de réfléchir à chacun personnellement, à la question fondamentale qu'on se pose par rapport à notre vie. On peut se dire, qu'est-ce qui en fait me paraît incontournable? Alors, je vais proposer quelques pistes. Est-ce que la question fondamentale qu'on se pose, c'est est-ce que au fond je suis heureux? Est-ce que je suis satisfait avec ce que je vis? C'est peut-être une question fondamentale qu'on se pose. Ou alors, est-ce que je suis cohérent avec ce que je crois, ce que je vis? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce que j'ai une satisfaction dans ce que j'entreprends? Est-ce que je me sens épanoui? Pour des critères de beauté, est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? On peut se dire, ça c'est essentiel dans notre société, d'être beau, d'être belle. Ou alors, sur le plan du travail, est-ce que je suis performant? On pourrait se dire que l'une ou l'autre de ces questions est une question fondamentale qui nous permet en quelque sorte de voir ce qui tient la route, en fait, et d'évaluer sa vie. Mais la question fondamentale pour Marc, et il le met en évidence à la fois dans ce passage ici, mais aussi sur l'ensemble de son livre, c'est comment voit-on Jésus ? Alors, c'est peut-être pas la question qu'on aurait naturellement tendance à mettre en avant, mais pour lui, s'il y a bien une question à se poser, c'est celle-là. Comment voit-on Jésus ? Comment voit-on Jésus ? Et la question, elle est posée par Jésus lui-même à ses disciples. Qui suis-je d'après les hommes ? Et on entend les réponses d'après les uns, Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes. Et là, il faut probablement imaginer qu'il voit chez Jésus quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'il voyait en Élie, de ce qu'ils avaient entendu dire d'Élie, ou de ce qu'il voyait en Jean-Baptiste. Et on voit que ce n'était pas différent à l'époque d'aujourd'hui. On voit différentes projections par rapport à Jésus. On a des livres, Christ philosophe, on voit peut-être en lui un philosophe, on voit peut-être en lui un maître de morale, quelqu'un qui va nous enseigner, un révolutionnaire, quelqu'un qui nous inspire par sa vie, par sa manière de parler, par ses discours, le sermon sur la montagne. Et ce n'est pas différent à l'époque, il y a toutes sortes de projections au sujet de Jésus. Mais Jésus veut en arriver à la question centrale, mais vous, d'après vous, qui suis-je ? Et c'est là que Pierre répond, dans le mille, il dit, tu es le Messie. Et c'est un peu la question centrale, qui est-il ? Eh bien, il est le Messie. Marc l'a annoncé tout au début de son livre, il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et ici, on a Pierre qui donne la bonne réponse, la réponse qu'on devrait tous donner au sujet de Jésus, il vise dans le mille. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que Jésus parle ensuite d'un rejet qu'il va vivre à Jérusalem de la part de tous les responsables du moment, qu'il va mourir. Et là, Pierre ne comprend absolument pas ce qui se passe. Depuis son plus jeune âge, Pierre a entendu parler d'un Messie annoncé par les Écritures qui doit venir tout rétablir. Un roi politique à la manière d'un David qui va instaurer la paix, comme un Salomon peut-être aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette mort ? Qu'est-ce que c'est que ce rejet ? Il est choqué en entendant cela. Les anciens, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, tous ceux que Jésus cite, c'est un peu le Sanhédrin, c'est un peu l'équivalent de toutes les instances, l'Assemblée nationale, le Sénat. Ce serait un peu comme si on voyait un entraîneur qui pourrait entraîner le 15 de France et les mener à un autre niveau, et qui pourrait les mener très loin. Tout le monde voit en lui, on parle du 15 de France, vous avez peut-être entendu parler de la défaite, je ne vais pas remuer le truc tout dans la plaie, mais on pourrait avoir la personne en vue, c'est lui l'entraîneur qu'il nous faut. Et la chose qu'il dit, c'est que c'est bien moi. Mais pendant une année, il n'y aura que des défaites. On va tout perdre. Et là, on vous dit, attendez, c'est lui l'homme de la situation ou c'est pas lui ? Pareil avec un délégué général pour la République En Marche. On a la personne. Mais dans son discours, il dit, je vais être clair avec vous, on va perdre toutes les élections. Et là, on se dit, mais il a été choisi pour qu'on gagne, non ? Mais c'est un peu le choc que Pierre a. Il a eu raison de dire que c'est le Messie, mais Jésus poursuit en disant qu'il va mourir, qu'il va être rejeté par tous. Ça paraît tout simplement impensable. Et il se sent la responsabilité de reprendre Jésus. Mais notez la réaction de Jésus qui se retourne, qui sait que les disciples écoutent, et qui lui dit « Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Qu'est-ce que Pierre dit qui nécessite une telle intervention de la part de Jésus ? Quand Marc décrit la manière dont Pierre s'y prend pour reprendre Jésus, c'est un terme qu'on a déjà vu pour parler de la façon dont Jésus reprend un démon. Il ne va pas par le dos de la cuillère, Pierre, pour reprendre Jésus. Mais si Jésus pour reprendre Pierre. Merci. En fait, il y a plusieurs personnes qui sont là dans la salle pour m'aider à remettre les mots en place. Merci. Pierre n'y va pas par le dos de la cuillère et Jésus non plus, en fait. Il parle de Satan qui est celui qui a aussi voulu tenter Jésus. On le voit, alors c'est vrai brièvement chez Marc, mais dans les autres évangiles, on voit que c'est la même idée qu'avait Satan. Ne pas passer par la croix, et c'est presque, pour moi, c'est les mêmes termes, sinon mets-toi derrière moi. Il y a chez Pierre quelque chose de totalement faux dans l'idée qu'il ne doit pas passer par la croix. Qu'est-ce qu'il a vu de faux alors? Qu'est-ce qui est problématique? Remarquez le mot que Jésus a utilisé, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et ça nous fait poser la question, comment voit-on Jésus? On pourrait voir simplement Jésus comme quelqu'un qui nous inspire par son enseignement, comme on l'a dit. Une figure d'autorité qui peut dire certaines choses que d'autres n'ont pas le courage de dire. Nous inspirer comme un prophète, comme un enseignant, avec un message poignant. Mais on pourrait se dire naturellement que face à lui, notre courbe, elle est montante. On apprend à obéir à ce qu'il nous demande de vivre. Et c'est cela. Tout est là dans le fait d'obéir, de mettre en pratique son enseignement. Mais Jésus dit qu'il faut avant cela qu'il passe par la souffrance, le rejet, la mort et la résurrection. Selon lui, on n'a pas simplement besoin d'un enseignant qui va nous dire ce qu'il faut faire. Pas simplement besoin d'un exemple non plus. Il va falloir quelqu'un qui meurt à la croix. Et là, on en revient un peu sur la question de l'évangile de Marc. Dans sa manière de mettre par écrit les choses, il a posé au centre de son livre, Marc, la guérison de deux aveugles. Juste avant notre passage, on a un aveugle qui est guéri par Jésus en deux temps. Et ça surprend. Jésus a la capacité, et dans tous les autres miracles, il n'y a pas besoin de le faire en deux temps. Cet aveugle-là est guéri en deux temps. Il va voir, après une première intervention de Jésus, de manière trouble, il confond les gens avec des arbres, et Jésus va intervenir à nouveau, et cette fois-ci, il va voir complètement. On a donc la guérison d'un premier aveugle, là. Et à la fin de cette section centrale du livre de Marc, on aura un autre aveugle qui sera guéri, et qui, lui, est guéri tout de suite, et qui se met à suivre Jésus alors qu'il est en route vers Jérusalem. Deux aveugles. Mais le premier aveugle voit en partie avant de voir totalement. Un peu comme Pierre ici, qui est en mesure de voir que Jésus est le Messie, mais qui a de la peine de voir en lui quelqu'un qui va souffrir et mourir. Et à la fin de cette section, avant la dernière guérison de cet aveugle, ça peut être intéressant de relever ce que Jésus dit au sujet de sa mort, du sens de sa mort. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Il affirme que ce que l'on doit comprendre pour bien voir à qui on a affaire, qu'il faut le voir comme celui qui va se donner en rançon. Comment voit-on Jésus? On peut l'illustrer par la question du pardon. Chacun d'entre nous ici, on a été placé devant la question de qu'est-ce que je vais faire par rapport à une offense qui a été commise contre moi. On a le choix entre, si on résume les choses, entre deux options. Si quelqu'un vous a gravement offensé, vous a blessé personnellement, vous avez le choix entre lui faire payer d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait être de dire à partir de maintenant, je ne lui parle plus. C'est une manière de lui faire payer. Ou je vais lui faire pareil, je vais lui faire exactement ce qu'il m'a fait, ou alors par des paroles ou par la médisance, je vais d'une certaine façon lui faire payer l'offense qu'il m'a payée, parce qu'on sait qu'il a une dette vis-à-vis de nous. L'autre option, c'est de pardonner, mais chacun d'entre nous ici, si on pense à ce qui nous a le plus blessé dans l'attitude d'une personne, et ça peut être de manière récurrente, on réalise que le pardon, il n'est pas facile à accorder. que ça représente un coup, que c'est dur de pardonner, parce qu'on refuse d'infliger à l'autre ce qu'il nous a infligé, eh bien c'est comme si Jésus disait qu'il était prêt, lui, à payer le coût pour toutes nos offenses vis-à-vis de Dieu. Il affirme qu'il nous faut voir en lui celui qui est prêt à payer notre rançon, notre dette, à payer le coût à notre place. Comment voit-on Jésus ? On pourrait simplement le voir comme quelqu'un d'inspirant, comme un messie, un roi, un enseignant. Mais il va falloir voir plus que cela. Et si vous venez les mardis soirs pour les rencontres découvertes, c'est un des sujets importants. Est-ce qu'on va le voir comme quelqu'un de plus ? Pas simplement comme un prophète, pas simplement comme une figure d'autorité, mais comme celui qui a dû mourir pour nous, payer notre rançon. Mais une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut le suivre ? Ben, comment suit-on Jésus ? C'est la deuxième question qu'on se pose. Et on écoute Jésus dire « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, je pense l'avoir déjà dit ici, mais c'est le verset qui m'a été offert à mon baptême il y a 25 ans. Et je me souviens que quelques temps après mon baptême, une personne qui était venue chez nous nous rendre visite avait dit « C'était pas très sympa du pasteur de donner un verset comme ça. Il aurait pu choisir quelque chose d'un peu plus prometteur, d'un peu plus beau à entendre, non ?» Et c'est vrai que sur le moment, je n'avais pas réalisé... que ça pouvait faire peur de se dire, renoncer à soi-même, se charger de sa croix. Je l'avais entendu le dire. Mais plus le temps avance, en fait, plus je pense que ce pasteur avait raison. C'était un verset qui était important pour lui. Et c'est un verset important pour chacun d'entre nous qui voulons suivre Jésus. D'être bien conscient de ce que signifie suivre Jésus. Pourquoi ? Parce qu'en pensant aux raisons pour lesquelles Laura se fait baptiser aujourd'hui, il est possible que certains se disent « mais ça lui fait du bien, elle est en quelque sorte réconciliée avec elle-même, elle se sent plus épanouie avec cette foi en Jésus, ça lui donne une certaine paix, une certaine sérénité, tant mieux pour elle, c'est bien. » Mais on n'a pas écouté Jésus alors. On n'a pas écouté Jésus. Ça ne colle pas avec ce qu'il dit ici. Si c'est simplement pour sa propre vie, pour sauver sa vie, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Si c'est simplement pour un gain personnel, si c'est simplement pour nous faire du bien, on n'a pas vraiment compris ce que signifie suivre Jésus. Jésus va plus loin, il dit qu'on pourrait gagner le monde entier. Et vous imaginez ? Vous pourriez être la personne la plus riche au monde, la plus fortunée, vous pourriez être Bill Gates ou je ne sais qui, vous pourriez devenir président et avoir raté votre vie. Ce que Jésus dit ici est quand même choquant, non ? Pourquoi suivre Jésus s'il n'y a pas un gain alors ? Ben, le fait de gagner est lié à sa mort pour nous. Pourquoi suivre Jésus ? Pourquoi est-ce qu'on va suivre Jésus si ce n'est pas pour ces raisons-là ? Ben, on voudra suivre Jésus parce qu'on a réalisé qu'il est celui qui a justement payé notre rançon. Parce qu'on a foi qu'il obtient un pardon qu'on ne pouvait pas acquérir par nous-mêmes. Quelqu'un voudra suivre Jésus parce qu'il ou elle a réalisé que Jésus a tout donné, s'est sacrifié entièrement pour nous, par amour pour nous, et que cette relation, c'est le plus grand gain qui puisse exister, un gain qui ira au-delà de la mort, qui ne s'arrêtera pas avec la mort. Que cela vaut plus que toutes les richesses du monde, que d'être unis à Jésus, de pouvoir être avec lui pour l'éternité. Et comment est-ce qu'on suit Jésus ? Ben, en renonçant à lui-même, comme il le dit, en se chargeant de sa croix. Alors on serait peut-être tenté de les réduire à quelques expressions qu'on entend encore parfois, un calvaire. J'ai pris la voiture un samedi après-midi pour aller faire les courses, un calvaire. Ou alors, je suis allé à tel supermarché aux heures de pointe, un calvaire. Renoncer à soi, il y a deux parts de gâteau. Je sais qu'il y a encore des personnes qui veulent manger. Je renonce à moi-même, j'en prends pas. Ou je fais un régime. Mais c'est manqué totalement. C'est totalement manqué ce qui est écrit ici. Jésus, en parlant de renoncer à soi-même, se charger de sa croix, ce n'est pas une figure de langage, c'est autant de persécutions fortes. Et il y en a même ici, il faut savoir, tout n'est pas dit publiquement, mais il y a des personnes qui sont là ce soir, qui vivent cela concrètement, un rejet de la part de leur famille, tout simplement parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Et ça peut aller jusqu'aux menaces. Ici, se charger de sa croix, c'est comme porter la guillotine avec laquelle on va être décapité, porter le fusil avec lequel on va nous tirer dessus. On est autant l'empereur Néron, et il y aura des persécutions. Ce n'est pas abstrait, hypothétique, c'est proche et actuel pour les auditeurs. Et par renoncer à soi, il y a l'idée de placer Christ comme celui que l'on va suivre au centre de notre vie. Est-ce que c'est la fin que chaque chrétien doit attendre, une mise à mort? Pas nécessairement, effectivement, mais dans la décision qui consiste à suivre Jésus, Laura et d'autres qui veulent suivre Jésus doivent prendre cela en compte. Il est possible que ça aille jusque-là. Maintenant, si on essaie de l'appliquer à soi ce soir, ce sera effectivement peut-être pas une mise à mort en sortant de l'église ou des menaces de mort, mais une expression qu'on pourrait utiliser pour essayer de l'appliquer à soi, c'est être prêt devant des décisions à se dire non à soi-même pour pouvoir dire oui au Seigneur. Quand je dois choisir entre moi, ma volonté et la volonté du Seigneur, eh bien je vais apprendre à me dire non à moi-même pour dire oui au Seigneur de manière plus en plus évidente. Beaucoup de choix, de décisions, la tension elle n'est pas là. La manière de s'habiller, ce qu'on va manger aujourd'hui. Mais il y a des moments, comme au moment de demander pardon à quelqu'un, est-ce que je vais être prêt à m'humilier devant une personne, à renoncer à moi, à dire non à moi-même en quelque sorte, pour dire oui au Seigneur. Inversement, pour pardonner quelqu'un, est-ce que je vais être prêt à pardonner quelqu'un en disant non à moi-même pour dire oui au Seigneur. Quand j'ai envie de taire le fait que je suis chrétien, et c'est peut-être la tentation de plusieurs ici, est-ce que je vais être prêt à dire non à moi-même et ne pas renier Jésus comme il est dit ici, de sorte que je puisse dire oui au Seigneur? Pourquoi? Et bien parce que j'aurais vu justement sa trajectoire. J'aurais vu qu'il était prêt, lui, à mourir à la croix pour payer ma rançon. La trajectoire de celui qui est le roi, de celui qui est en même temps celui qui a souffert pour nous, qui s'est donné pour nous. Jésus est le roi qui est passé par la croix. Et si je veux le suivre, je dois aussi passer par la croix. Amen.